bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 14 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seludia. Les titres pour commencer. La Côte d'Ivoire insiste sur le fait que ses 49 soldats arrêtés au Mali étaient bel et bien en mission et que Bamako était bien au courant. Les présidents du Tchad et du Niger s'engagent à revitaliser la force anti-djihadiste G5 Sahel après le retrait du Mali. Au Niger, visite ce jeudi et vendredi des ministres français des Affaires étrangères et des Armées. Leur président, Emmanuel Macron, ouvre la porte à une offre militaire française rénovée en Afrique. Rencontre aujourd'hui, très attendue en Côte d'Ivoire, entre le président Alassane Ouattara et ses prédécesseurs Gbagbo et Bédié. Au Sri Lanka, les manifestants annoncent leur départ des bâtiments occupés. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal. Affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, la Côte d'Ivoire persiste et signe. Ces soldats étaient bel et bien en mission et Bamako était bien au courant. Le colonel Gezoa Mahi Armand, conseiller aux opérations extérieures du chef d'état-major des armées ivoiriennes, a donné une conférence de presse hier pour demander que ces soldats soient relâchés sans délai. Notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra.
Selon le colonel Gezoa Mahi Armand, le porte-parole de la MINUSMA basée à Bamako, Olivier Salgado, a déjà confirmé connaître l'existence de ce détachement de soutien national ivoirien basé à Bamako.
Quant à dire qu'ils ne sont pas enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA, je voudrais indiquer que les éléments arrêtés l'ont été à l'aéroport dès leur arrivée et n'ont eu le temps d'accomplir aucune formalité administrative. Par contre, il est important de relever à cet effet que tous leurs prédécesseurs ont toujours bénéficié de badges de l'ONU qui attestent de leur présence officielle et des décorations de l'ONU au terme de leur mission. Comme les éléments de la section descendante ont été décorés le 10 juin dernier sur leur base à l'aéroport par le commandant de la force de la MINUSMA, nous mettons à votre disposition des images qui l'attestent.
Selon lui, ce 8e contingent ivoirien a utilisé le même avion que celui qui a ramené le 7e contingent décoré par le commandant de la MINUSMA à l'aéroport de Bamako. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Les ministres français des Affaires étrangères et des Armées sont attendus ce jeudi et vendredi au Niger. Ils vont discuter de stratégie après le retrait des troupes françaises du Mali. Mohamed Houmfa.
Le Niger, où sont attendus jeudi soir Catherine Colonna et Sébastien Lecornu, va devenir la plaque tournante de l'opération militaire dans la région avec un millier d'hommes basés à Niamey ainsi que des avions de combat, des drones et des hélicoptères. 300 à 400 militaires seront déployés pour des opérations spéciales avec l'armée nigérienne dans les régions frontalières avec le Burkina Faso et le Mali, ont précisé des responsables français. Un contingent de 700 à 1000 hommes sera basé au Tchad. La sécurité, la bonne gouvernance et le développement sont indissociables, dont notre stratégie au Sahel doit consister à aider à la fois les armées africaines à lutter contre les groupes terroristes, à soutenir la présence de l'État dans les zones délaissées, appuyer la justice et l'état de droit et à investir dans le développement économique de ces pays, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, mardi à l'Assemblée nationale. Les deux ministres vont annoncer le déblocage d'une aide de 50 millions d'euros pour améliorer le réseau d'électricité au Niger. Le président nigérien Mohamed Bazoum était hier à N'Djamena pour tenter de relancer le G5 Sahel, devenu moribond depuis le départ du Mali.
Le président français Emmanuel Macron a ouvert la porte mercredi à une transformation de l'offre militaire française en Afrique vers un dispositif plus discret et annoncé une réévaluation du budget des armées pour 2024-2030 à l'aune du retour de la guerre en Europe. Michel-Joseph fait le point.
Dans sa traditionnelle allocution au ministère des Armées à la veille du 14 juillet, M. Macron a jugé que l'adoption de dispositifs moins posés et moins exposés en Afrique relevait d'une nécessité stratégique, alors que l'armée française est en passe de quitter le Mali à la fin de l'été et qu'elle a des milliers de militaires impliqués dans la lutte anti-djihadiste au Sahel. M. Macron a affirmé sa volonté de réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, reconstruire une capacité à former ici et là-bas, tout en restant en deuxième ligne, et alors que Paris veut préparer ses armées aux conflits de haute intensité comme celui d'Ukraine. La France, ancienne puissance coloniale d'une partie des pays du continent, y maintient une forte présence militaire. Le président Macron a par ailleurs évoqué la nécessité d'un continuum entre notre offre diplomatique, nos actions rénovées pour le partenariat africain, nos actions de développement en Afrique. C'est un changement de paradigme profond, a-t-il martelé.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara doit recevoir aujourd'hui ses deux prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à 17h temps universel à la présidence. Claire Morin-Gibourg nous donne davantage de détails.
Cette rencontre est une première depuis la prise de fonction du président Alassane Ouattara en 2011. Laurent Gbagbo sera entouré de son directeur de cabinet, Emmanuel Auguste Aka, et du porte-parole du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Justin Koné-Katinan. Annoncée il y a une semaine, cette entrevue vient confirmer l'apaisement du climat politique de ces dernières années. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, a affirmé que le chef de l'État ivoirien parlait régulièrement avec les deux anciens présidents par téléphone. L'idée d'une telle rencontre entre les trois hommes était l'une des recommandations du dialogue politique qui s'est tenu en début d'année. La Côte d'Ivoire a connu ces dernières années plusieurs crises politiques. La présidentielle de 2010 avait débouché sur une crise post-électorale qui avait fait quelque 3000 morts et conduit à l'arrestation de M. Gbagbo en avril 2011.
En Gambie, un tribunal de Bandiola a condamné à mort hier 5 ex-responsables des renseignements pour le meurtre en avril 2016 de l'opposant Ibrahima Solo Sandeng sous la dictature de l'ex-président Yahya Jammeh. La justice est en train de rattraper les acolytes de Yahya Jammeh en Gambie et à travers le monde. Nous espérons qu'elle rattrapera bientôt Yahya Jammeh lui-même, s'est félicité Reid Brody, un avocat de la Commission internationale de juristes qui travaille avec les victimes de Jammeh. La Tanzanie a envoyé une équipe de médecins et d'experts de la santé dans le sud-est du pays pour enquêter sur une mystérieuse maladie qui a causé la mort de 3 personnes, ont affirmé mercredi les autorités tanzaniennes qui ont invité au calme les habitants. Cette maladie, dont les symptômes incluent saignement de nez, fièvre, maux de tête et fatigue, a été détectée dans la région de Lindi, a déclaré le médecin en chef du gouvernement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a réaffirmé hier l'engagement inébranlable des États-Unis envers Israël, dont il a défendu une meilleure intégration au Moyen-Orient à l'occasion de sa première tournée dans cette région depuis son accession à la Maison-Blanche. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
À son arrivée à Tel Aviv, Joe Biden a répété l'engagement inébranlable des Américains pour la sécurité de l'État hébreu, avant de se rendre ensuite au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Le président américain a aussi assisté à une présentation par Israël sur ses capacités de défense antimissile. Il a réitéré son soutien à une solution à deux États, un État palestinien vivant aux côtés d'Israël, qu'il a jugé la meilleure solution possible. Le gouvernement israélien espère que la tournée de Biden va aider à aller vers une normalisation avec le royaume saoudien. Nous allons continuer de faire avancer l'intégration d'Israël dans la région, a déclaré le président américain qui va s'envoler directement d'Israël vers l'Arabie saoudite vendredi. En 2020, sous l'impulsion de l'ancien président Donald Trump, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont normalisé leurs relations avec Israël.
Dans une interview à la chaîne israélienne 12, diffusée mercredi soir, M. Biden a répondu oui si c'est en dernier recours, à la question de savoir s'il était prêt à utiliser la force afin de s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme atomique. La Russie et l'Ukraine ont progressé mercredi au cours d'une réunion d'experts militaires à Istanbul sur l'épineuse question du blocage des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens, la Turquie annonçant de nouvelles discussions sur le sujet la semaine prochaine. Les manifestants sri-lankais qui ont contraint le président Gotabaya Rajapaksa à fuir le pays après l'invasion de sa résidence le week-end dernier ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient évacuer les bâtiments publics occupés depuis plusieurs jours. Nous nous retirons pacifiquement du palais, mais nous continuons notre lutte, a déclaré un porte-parole. La Minute Éco, Nanit Talani.
Aux États-Unis, le prix moyen de l'essence a dépassé les 5 dollars le gallon, environ 3,8 litres en juin, du jamais vu dans ce pays. Une progression de grande ampleur pourrait inciter la Banque centrale américaine à relever davantage ses taux directeurs. Elle les avait déjà rehaussés de 0,75 point de pourcentage en juin, sa plus forte augmentation depuis 1994. La prévision de croissance de la demande mondiale de brut pour 2022 pourrait atteindre 99,2 millions de barils par jour, selon l'Agence internationale de l'énergie. Du côté de l'offre, l'agence constate une résilience de la production russe, une performance surprenante en dépit des sanctions et une offre accrue venue des États-Unis et du Canada. En 2023, la demande mondiale devrait s'établir à 100,1 millions de barils par jour et dépasser ainsi les niveaux d'avant la pandémie de COVID-19. L'offre serait en dessous de la demande. Pour terminer, en Libye, la Compagnie nationale de pétrole annonce la reprise des exportations de brut depuis 2 terminaux suite à la levée de l'état de force majeure sur les terminaux de Marsa Brega et Zouetina dans le nord-est du pays. Fin juin, la NOC avait déploré des pertes de plus de 3,5 milliards de dollars en raison des fermetures forcées depuis mi-avril de 6 champs et terminaux pétroliers majeurs.
Merci Nanit. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite et fin ce jeudi des quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2022.
La Tunisie défie l'Afrique du Sud. Bien avant, on aura droit au choc au Cameroun-Nigeria qui se présente comme une finale avant l'heure. Hier, le Sénégal a été éliminé par la Zambie, victorieuse au tir au but, 4-2, un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. À noter que les qualifiés pour les demi-finales représenteront l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde féminine prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Une question à présent, l'Afrique va-t-elle perdre une chance de médaille aux mondiaux d'athlétisme?
Les espoirs du continent dans l'épreuve de 100 mètres reposent sur les épaules de Ferdinand Omanyala. Mais problème, jusqu'à hier mercredi, le sprinter kenyan, détenteur du record d'Afrique, a annoncé qu'il était toujours dans l'attente de son visa pour les États-Unis qui accueillent ces mondiaux en Eugene, dans l'Oregon, du 15 au 25 juillet. Triste de n'avoir pas encore pu partir pour l'Oregon alors que la course est dans 2 jours. Retard de visa a posté hier sur son compte Instagram l'athlète de 26 ans. Les séries du 100 mètres doivent débuter ce vendredi à 12h30 heure locale. Ferdinand Omanyala a signé en mai la 3e meilleure performance mondiale de l'année, 9 secondes 85 centièmes sur 100 mètres, 8 mois après avoir établi un nouveau record d'Afrique en 9 secondes 77 centièmes.
Mo Farah soulagé par le soutien du Royaume-Uni après ses révélations.
Le quadruple champion olympique britannique d'athlétisme s'est dit soulagé que le Royaume-Uni n'attend pas de poursuite à son encontre après ses révélations concernant son entrée sous une fausse identité dans le pays quand il était enfant. « Je suis soulagé, pour moi, c'est mon pays », a réagi Farah, auteur du doublé 5000 mètres, 10 000 mètres aux Jeux Olympiques 2012 et 2016. Mo Farah, 39 ans, et anobli par la reine d'Angleterre pour ses exploits sur les pistes d'athlétisme, a révélé mardi dans un documentaire qu'il est arrivé illégalement au Royaume-Uni avant d'être forcé de travailler comme domestique. Mo Farah dévoile dans le documentaire qu'il se nomme en réalité Hussein Abdi Kahin. Son père a été tué en Somalie lorsqu'il avait 4 ans. Sa mère et ses 2 frères vivent dans la région séparatiste du Somaliland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulière. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En visite de travail au Tchad, le président nigérien Mohamed Bazoum a clôturé sa mission par une conférence de presse tenue conjointement avec le chef de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby. Les deux hommes ont évoqué la question sécuritaire dans la sous-région et l'avenir du G5 Sahel après le retrait du Mali de cette organisation. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Visite de travail ayant abouti à la signature d'un nouvel accord de coopération sur la sécurité entre les deux pays. Mahamat Idriss Déby appelle les deux gouvernements à traduire dans les faits les termes de cet accord et tout autre outil censé solidifier les relations entre les deux pays. Pour Mohamed Bazoum, président nigérien, c'est une coopération agissante.
Même si le Tchad relève de la communauté des États d'Afrique centrale et que le Niger relève de la CEDEAO, notre proximité et notre voisinage commande que nous travaillons à promouvoir une coopération la plus bénéfique possible entre nous. Et évidemment que l'insécurité aujourd'hui est telle qu'elle peut perturber justement cette vie commune. L'une des raisons justement c'est de faire en sorte que cette insécurité n'influe pas de façon négative sur le bien-être des populations dans le cadre des relations entre nos deux pays.
Le retrait du Mali du G5 Sahel a été également abordé. Le chef de la junte tchadienne, qui a conservé la présidence de la force régionale, reconnaît toutefois que le Mali est un épicentre du terrorisme et son retrait de ce groupe va certainement avoir des conséquences non seulement sur la mission du G5 Sahel, mais aussi au niveau géographique.
La Mauritanie fait partie du G5 Sahel et elle est liée au G5 Sahel par le Mali. Donc nous regrettons ce retrait, mais nous sommes encore optimistes. Nous espérons que le Mali revienne à la décision. Parce que la lutte contre le terrorisme, c'est un combat noble. Mais c'est un combat aussi qu'un pays ne peut pas le faire seul.
Le G5 Sahel est devenu comme moribonde depuis le départ du Mali, a déclaré le président nigérien Mohamed Bazoum.
Dans la mesure où tout s'est joué au Mali et que le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base, il y a un problème et nous devons par conséquent nous retrouver et faire en sorte que le G5 soit viable. Il a eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent, force est de le reconnaître, ça ne sert à rien de se voiler la face, nous savons à quoi sont les difficultés et nous allons nous battre pour le recréer et peut-être même lui donner un nouveau souffle et vraiment une énergie nouvelle.
Catherine Colonna des Affaires étrangères et Sébastien Lecornu des armées françaises sont attendus au Niger pour discuter de nouvelles stratégies après le retrait des troupes françaises du Mali. Le Niger pourrait devenir la plaque tournante de l'opération militaire française dans la région avec 1 000 000 d'hommes basés à Niamey avec des avions de combat, des drones et hélicoptères. 300 à 400 soldats français seront déployés pour des opérations spéciales avec l'armée nigérienne dans les régions proches du Burkina Faso et du Mali. Enfin, un contingent de 700 à 1000 hommes sera basé au Tchad, toujours pour aider dans la lutte contre le terrorisme. André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Des crispations de la vie politique en Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui que se tient la rencontre entre le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Comment est perçue cette rencontre et quelles sont les attentes des chapelles politiques de la société civile et du citoyen lambda? Élément de réponse dans ce dossier de notre correspondante à Abidjan, Delphine Boise.
La rencontre entre les trois grands de la politique ivoirienne, à savoir Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, est prévue ce jeudi. Et c'était l'une des recommandations du dialogue politique tenu il y a 3 mois. C'est la rencontre dite de tous les espoirs pour une sortie définitive et durable de la crise dans le pays. Justin Katina Kone, porte-parole du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, estime que ça sera un pas de géant dans le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation.
Pour nous, le fait qu'il se rencontre, déjà, c'est un très beau signal qu'il donne à la population sur l'état de l'apaisement du climat politique. Mais il y a des questions de fond. Et nous pensons que si ces trois-là se penchent sur ces questions de fond, là, ils trouvent des solutions. Il est évident que le pays connaîtra un pas de géant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA de l'ancien président Henri Conan-Bédier, dit attendre avec beaucoup d'espoir sur cette rencontre, non sans évoquer les sujets qui leur tiennent à cœur. Soumaïla Kouassi Brindoumi, porte-parole du PDCI-RDA.
Nous vivons ça avec beaucoup d'espoir et nous avons une série de dossiers qui n'ont pas été vidés par le dialogue politique en pensant que cette fois-ci, l'intérêt du pays va primer et que les problèmes vont se résoudre de manière définitive. Il y a le problème du découpage électoral, le problème de la liste électorale, il faut l'auditer, le problème de l'identification. Et je pense que d'abord, le premier gros dossier, c'est la libération des prisonniers politiques.
La société civile considère le 14 juillet comme tout un symbole. Mahamadou Kouma, coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne.
Et comme ils ont choisi le 14 juillet, mais on verra toute la symbolique, qu'est-ce que ça donne. Les hommes politiques aussi, tout ce qu'ils font a un sens, tout est calculé. En politique, on ne pose pas de date comme ça.
Pour le citoyen lambda, cette rencontre pourra booster la réconciliation nationale.
Moi, c'est Assiou Jean-Pierre. Je pense que c'est une bonne chose, parce que si le pays n'est pas trop ça, donc si ils se mettent ensemble pour dialoguer, pour discuter, je crois que c'est mieux pour tous les citoyens ivoiriens. Bon, on attend que, bon, qu'ils nous disent qu'ils sont ensemble, il y a la réconciliation.
Je m'appelle Kwaku Amala. Nous voulons que l'objectif de chacun soit atteint. Nous voulons de cette rencontre que ça soit pour de bon, pour que le pays va de l'avant, pour que la population ait la paix pour de bon.
Ce rendez-vous historique devrait tracer la voie pour des élections libres, démocratiques et transparentes, après toutes les crises post-électorales et tous les drames que ce pays a vécu. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Togo, les autorités partent en croisade contre les grossesses des jeunes filles dans les milieux scolaires. Le gouvernement vient d'adopter un projet de loi visant à renforcer l'arsenal juridique. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousou.
Il existe au Togo des textes réprimant les auteurs des grossesses des jeunes filles qui sont encore sur les bancs des écoles. Malgré l'existence d'une loi répressive, le phénomène persiste. Il faut réagir et agir vite, dit Akoda Ayewadan, le porte-parole du gouvernement.
On peut citer des chiffres, hein. 2020-2021, c'est près de 1747 grossesses en milieu scolaire. Et cette situation n'est plus tenable. Le gouvernement a choisi de renforcer l'arsenal existant. Donc aujourd'hui, on a un projet complet qui va d'abord dans le préventif, ensuite propose un accompagnement et également des sanctions.
Ces intentions sont louables, estime Innocent Diaro Agbeka, président de l'association des parents d'élèves qui a dirigé l'atelier de la validation du projet qui a réuni tous les acteurs de l'éducation.
Le constat de la grossesse en milieu scolaire est vraiment amer. On a constaté que les années passées, on a déchiffré jusqu'à 5000 grossesses. Vraiment, il doit falloir qu'on prenne une position pour pouvoir juguler ce mal qui gangrène la jeune fille togolaise. C'est pour ça que nous avons franchement adhéré à cette décision.
Francis Pedro, un acteur politique, lui, réclame plutôt des actes que des paroles.
C'est maintenant que le gouvernement voit qu'en milieu scolaire, là, il y a trop de grossesses. Je me souviens dans les années 77, le gouvernement du Togo a pris un décret pour envoyer en prison tout enseignant qui engrosse une élève. Et puis après, bon, maintenant que le gouvernement veut faire quelque chose, bon vent, il ne sert à rien de parler. Il faut agir.
Pour Mireille Bossou-Souedjede, directrice exécutive de l'association Précieux Trésors de Vie qui mène des actions de sensibilisation sur le terrain. La loi est peut-être nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour juguler le phénomène.
Cette loi que le gouvernement veut prendre, nous prenons d'abord ça comme un éveil de conscience pour dire alerte, attention, il se passe quelque chose, il faut qu'on agisse. Maintenant, est-ce que la loi en elle-même protège assez les filles pour qu'elles ne tombent pas enceintes? Je reste quand même un peu dubitative. Je pense à mon niveau qu'on doit repenser l'éducation sexuelle.
Dodi Kokoroko, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, a le triomphe modeste et reconnaît aussi que la loi ne pourra pas tout régler. Il nous faut des réponses adaptées face à ces phénomènes. Il faut une véritable révolution des mentalités, a-t-il dit. Kossi Wutsu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Les forêts de la province du Sud-Kivu en République démocratique du Congo sont en train de s'épuiser, en partie à cause de la production de charbon de bois. Mais à Bukavu, un club de retraités s'est lancé dans la fabrication de granulés de bois, ce qui leur rapporte de l'argent tout en aidant à conserver les précieuses forêts de l'est du Congo. Les détails avec Thierry Kaoré.
Bavon Mubake a récemment pris sa retraite d'un poste gouvernemental en République démocratique du Congo. Avec ses amis du centre de réadaptation pour personnes âgées de Bukavu, il s'est trouvé une nouvelle vocation en fabriquant des pastilles de combustible avec les déchets de la ville, un moyen de gagner de l'argent, mais surtout de protéger l'environnement.
Nous sortons donc et ramassons toutes sortes de déchets, des tiges de maïs, aux feuilles en décomposition. Nous les ramenons ici et les trompons. Nous les séchons ensuite et les broyons en poudre. Nous mettons la poudre dans l'eau bouillante et la mélangeons avec la suure de bois carbonisé, puis nous la transformons en briquettes.
Avec un accès limité à l'électricité, la plupart des habitants de Bukavu cuisinent au charbon de bois provenant d'arbres abattus dans le parc national voisin qui abrite les gorilles des plaines de l'Est, une espèce en voie de disparition. Les briquettes de déchets fabriquées par Mubake et ses collègues coûtent moins cher, 100 francs congolais, soit 5 cents américains, un dixième du coût de charbon de bois traditionnel. Elles sont également sans fumée et sans odeur. Sylvestre Mouzombois est le superviseur du centre de réadaptation pour personnes âgées de Bukavu.
Même si on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, nous avions pensé qu'en coupant les arbres, un jour, ça va s'épuiser. Parce que la plupart des fois, on déboise, mais on ne reboise pas. Alors, nous avions pensé, si en coupant les arbres et en produisant des braises, on brûle et c'est fini. Mais nous avions pensé qu'il fallait ramasser les déchets, qu'il fallait recycler tous ces déchets là-bas et en faire une autre forme d'énergie.
Selon Sylvestre Mouzombois, c'est un travail physique qui permet également aux retraités de rester en bonne santé.
Vous dites dans un monde idéal, mais nous avons réfléchi, nous avons pensé que lorsqu'on a vieilli, on peut s'asseoir et attendre la mort. Mais la meilleure des façons que nous avions pensé, c'est seulement en travaillant qu'on peut encore retarder la vieillesse.
Après seulement 3 mois de fonctionnement, le centre produit environ 2000 briquettes par semaine, ce qui contribue à réduire la dépendance de la ville de Bukavu à la forêt tropicale. La province du Sud Kivu, où se trouve Bukavu, a perdu 12% de son couvert forestier au cours des 2 dernières décennies, selon Global Forest Watch, en grande partie à cause de l'agriculture sur brûlis et de la production de charbon de bois. Avec cette initiative, Mubake et ses amis ont montré qu'on n'est jamais trop vieux pour être utile.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir des 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Michel Joseph et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.